voisin. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. La semaine dernière, nous avons découvert comment les enfants apprennent à parler. La découverte des sons, des mots se fait avant 3 ans, à la crèche, à la maison. Et aujourd'hui, nous parlons de l'école maternelle, que l'on appelle aussi le préscolaire ou le jardin d'enfants. Alors, que peut-on apprendre entre, grosso modo, entre 3 ans et 6 ans? Les réponses sont variables selon les pays, les âges de scolarisation, mais il y a désormais consensus sur le fait que le préscolaire est une étape, certes pas indispensable, mais essentiel pour le développement des enfants. Un lieu, en principe, sans pression scolaire, conçu pour donner envie aux enfants d'aller à l'école, d'apprendre, d'épanouir leur personnalité et d'expérimenter le vivre ensemble. Les voisins et les voisines, c'est le moment aujourd'hui de poser toutes vos questions à nos spécialistes si vous voulez savoir ce que peuvent apprendre vos enfants avant l'école primaire. Vous pouvez nous contacter sur notre compte WhatsApp, c'est le 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités qui sont à mes côtés dans le studio de RFI. Elisabeth Godon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, vous avez enseigné pendant des années au Cameroun, en Guinée, au Vietnam, comme professeur des écoles, et puis vous avez aussi travaillé comme psychologue scolaire en Guyane, en Guadeloupe, sur l'importance de l'école maternelle dans les zones les plus défavorisées. Et vous publiez « Que sont mes élèves devenus ?» aux éditions Allopex. Également avec nous, Grégoire Borst, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université de Paris, anciennement Paris Descartes. Nous serons également en ligne tout à l'heure avec Wafa Skali, qui est présidente de l'association Relais Instruction Éducation au Maroc, un pays qui a énormément progressé sur la route de la scolarisation pour tous et qui s'intéresse maintenant à l'éducation préscolaire. Et puis en fin d'émission, comme chaque semaine, la chronique du psychologue, aujourd'hui psychologue à Bamako, Ibrahim Aïdara, nouveau chroniqueur chez 7 milliards de voisins, et toujours la même thématique, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Sur l'école maternelle ou préscolaire, je vous lis quelques points de vue d'auditeurs. Les réactions ont beaucoup évolué ces dernières années, très positives sur l'école maternelle. Gianni est à Kinshasa, en RDC. Il nous dit « Moi, je trouve ça normal que les enfants aillent à l'école maternelle parce que c'est là qu'ils apprennent à compter, chanter, réciter et raconter une histoire. C'est une étape importante. » Oui, encore faut-il que cette école préscolaire soit accessible à tous les enfants. C'est très loin d'être le cas en RDC. Joseph est à Yaoundé, au Cameroun. Aujourd'hui, c'est presque obligatoire d'inscrire ses enfants à l'école maternelle. Enfin, pas obligatoire dans les textes, hein. Et pas forcément pour l'acquisition des connaissances, mais parce qu'il n'y a personne pour les garder. Ce qui n'était qu'une contrainte au départ devient un besoin pour les enfants qui s'émancipent de la famille. Ah oui, un mot important aussi, hein. S'émanciper de sa famille, se détacher de son papa, de sa maman. Madi est à Saraya, au sud du Sénégal. J'accompagne mes petits frères à l'école et je constate qu'après la famille, l'école maternelle, c'est vraiment le second lieu social où l'enfant apprend à socialiser. C'est là qu'il se fait des amis et des ennemis. Lieu où il surmonte ses phobies, nous dit Madi. Il existe une différence nette entre un enfant qui fait l'école maternelle et un enfant qui reste à la maison. Vous êtes d'accord? Il y a une différence nette entre un enfant du même âge qui reste à la maison et un enfant qui va à l'école maternelle. Juste en deux mots, Elisabeth Godon, là-dessus.
Je pense que forcément, il y a une différence de fait, puisque les enfants sont confrontés tout de suite à un groupe d'enfants. En fait, il faut bien se rendre compte qu'avant d'aller à l'école, ils sont pas élèves, ils sont enfants.
Ah, ils sont enfants. Et là, ils deviennent élèves. Nono est à Kinshasa. Il nous dit, moi aussi, je pense qu'il est important que les enfants aillent à l'école maternelle. J'ai 50 ans et à l'époque, j'ai fait 3 ans de maternelle. Alors, une époque où c'était encore moins répandu, hein, l'école maternelle en RDC, si Nono a 50 ans. Et il a fait la même chose que tous ses frères et sœurs. Et comme sa fille aussi, nous dit-il, ça éveille de façon précoce certaines aptitudes qui, tôt ou tard, faciliteront les apprentissages. Écoutez aussi le témoignage de Brice. Il est à Yaoundé.
Avant que mon petit neveu n'aille à l'école maternelle, il était trop attaché à sa maman. Il aimait pleurnicher pour des riens. Le jour qu'il fit ses premiers pas à l'école primaire, il devint un enfant hors du commun. Ce jour-là même, il frappa sur tous ses camarades. C'était Rambo. Au fil du temps, à ses yeux, Sa maman n'était plus comme ce cheval de croix vers qui il se réfugiait lorsqu'on le provoquait. À la place des pleurnichements, c'était des récitations et des formules de politesse qu'il avait apprises de ses institutrices. En définitive, donc, l'école maternelle inculque à l'enfant un nouvel environnement de vie et lui fait subir une certaine métamorphose sur le plan mental de l'état d'enfant irréfléchi pour l'état d'homme réfléchi.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Formidable cette métamorphose décrite par Brice qui nous parle de son petit-neveu qui est passé d'enfant pleurnicheur à Rambo qui tape sur tous ses copains et qui enfin est devenu tout simplement un élève. Alors Grégoire Borst, vous êtes spécialiste de l'étude du cerveau des enfants. Quand l'enfant arrive à l'école maternelle vers 3 ans, où en est-il de son développement, de ses apprentissages et de quoi est-il capable?
Il est capable de beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. On est très influencé par le modèle piagétien, qui est le grand psychologue du développement suisse, qui a théorisé les grands stades de développement en disant que avant 18 mois, l'enfant avait une intelligence essentiellement sensorimotrice, et puis ensuite, progressivement, il rentrait dans une intelligence plus pratique, plus physique sur les objets, et puis ensuite, progressivement, il allait acquérir cette pensée, comme le dit très bien cet auditeur, la pensée abstraite, finalement, qui est un peu la marque de l'humain, cette capacité hypothético-déductive. Et bien, il faut revoir tout ça.
Ah bon?
Parce qu'en fait, le bébé est déjà capable de faire du raisonnement extrêmement complexe, très abstrait.
Le bébé est déjà totalement différent de l'animal.
Il est déjà très différent, il est capable de faire des inférences, il est capable... Tout ça est implicite, évidemment. Oui. Et c'est tout l'enjeu, effectivement, du développement, comme le montrait très bien Annette Carlimer-Smith, qui était une autre très grande psychologue du développement. Elle disait finalement, l'enjeu du développement, c'est de passer de l'implicite à l'explicite. Et c'est ça aussi la maternelle. C'est tout d'un coup d'expliciter des compétences qui étaient là, implicites, qu'on ne voyait pas forcément, qui étaient un peu cachées et qu'on va expliciter au cours de la maternelle.
Des exemples?
Ça va être la capacité, par exemple, à dénombrer. On sait que le bébé, très tôt, est capable de faire de l'estimation approximative du nombre. Il est capable de même faire des opérations arithmétiques simples. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 n'est pas égal à 1 ou à 3. Et progressivement, au cours de la maternelle, l'enfant, le jeune enfant, va commencer à être en mesure de pouvoir faire du dénombrement simple.
On ajoute, on enlève, on retire, on voit des choses, on en voit moins.
Exactement. Et il faut comprendre qu'un enfant, c'est un petit scientifique, un petit psychologue qui fait des tests d'hypothèses. Il passe son temps à faire ça et il voit si son hypothèse est vérifiée, si elle est contredite. Et c'est comme ça qu'il construit son intelligence sur la base de compétences très précoces qui sont là dès la naissance.
Vous avez commencé par les mathématiques. Ça veut tout dire?
J'ai commencé par les mathématiques, mais on aurait pu commencer par le langage. La grande différence, c'est que le langage, on a déjà un pré-câblage dans notre cerveau à la naissance pour le langage. Tandis que les mathématiques et le langage écrit, c'est une construction, c'est un outil culturel à acquérir. Et ça, c'est complexe d'acquérir des outils culturels parce qu'ils sont très récents à l'échelle phylogénétique. Et donc, notre cerveau ne s'est pas transformé en réaction à l'émergence de ces outils culturels comme l'écriture ou comme les mathématiques.
Alors l'enfant, quand il arrive à l'école maternelle, d'un enfant à l'autre, d'un milieu à l'autre, d'une famille à l'autre, d'un caractère à l'autre, il arrive avec un stock de mots dans son cerveau très différent.
Exactement. Et c'est vrai que c'est là le grand enjeu de la maternelle. C'est qu'il faut bien comprendre, en tout cas en France, mais dans d'autres pays aussi, on sait que le vrai problème de nos systèmes éducatifs, c'est est-ce qu'ils arrivent ou non à résorber les inégalités éducatives. On sait qu'un enfant qui vit dans un milieu défavorisé, il a à 3 ans à peu près 2 à 3 fois moins de mots dans son vocabulaire qu'un enfant qui vit dans un milieu favorisé. Donc tout l'enjeu de la maternelle, c'est de transmettre de façon très explicite du vocabulaire, mais aussi toutes les fonctions dont on pense pas forcément, toutes ces fonctions de socialisation, toutes ces fonctions transverses impliquées dans tous les apprentissages. Et c'est ça le vrai enjeu de la maternelle. C'est apprendre à attendre son tour pour parler. C'est développer
ça,
des
c'est
capacités.
C'est important, ça, d'apprendre à...
C'est fondamental. Si vous voulez
quand
pouvoir...
la maîtresse passe, par exemple, la boîte à gâteaux, peu importe les rites d'une salle de classe à l'autre, les rites sont très différents d'une école à l'autre, mais c'est quelque chose qui est fondamental pour le développement intellectuel de l'enfant.
C'est fondamental pour son développement intellectuel, mais c'est aussi fondamental pour l'entrée dans les apprentissages. Quand il va rentrer à la grande école, à l'école primaire, il va falloir qu'il ait appris finalement ses tours de socialisation, ses tours de parole, parce qu'on ne peut pas passer son temps à couper la parole à l'autre, à couper la parole à la maîtresse. C'est aussi ça qu'on doit entraîner à la maternelle. Toutes ces compétences, psychosociales, on les appelait, maintenant on les appelait socio-émotionnelles, mais la coopération, l'empathie, l'altruisme, ça se construit aussi sur apprendre son temps de parole, son tour de parole, mais c'est aussi apprendre à faire des activités en commun.
Elisabeth Godon, comment ça se traduit dans la salle de classe, finalement, durant ces 3 années pour l'enseignante, pour les équipes éducatives? Comment on varie les situations d'apprentissage pour que s'adapter, d'une part, à la diversité des enfants, mais pour faire aussi en sorte que l'enfant puisse apprendre avec dans différentes situations, finalement?
Alors, j'ai envie de dire que les petits-enfants sont des éponges, en fait. Ils apprennent tout ce qu'on va bien vouloir leur apprendre et qui correspond à leur capacité. Mais il faut qu'ils soient avant tout dans une situation propre à recevoir, dans l'échange. Les enfants qui sont dans l'échange, quelle que soit la culture, quel que soit le pays, quelle que soit la situation, s'ils sont dans l'échange, quand ils arrivent à l'école, même s'ils doivent avoir une adaptation plus grande peut-être dans certains coins, évidemment, du monde, si jamais ils sont affectivement sécurisés, s'ils sont dans l'échange, s'ils n'ont pas peur, alors à ce moment-là, ils vont apprendre. Comme les neurosciences nous le montrent très bien, c'est ciblé. Mais par contre, il faut qu'ils soient dans la situation de pouvoir l'entendre. Pour être acteurs de leur apprentissage. S'ils ne sont pas acteurs de leur apprentissage, ils n'apprendront rien. Aucun apprentissage ne marchera.
L'école maternelle à la française est tout de même un peu particulière parce qu'il y a un programme scolaire qui dépend de l'éducation nationale, avec des enseignants qui doivent appliquer ce programme, des enseignants qui peuvent aussi être les mêmes enseignants qui peuvent enseigner dans d'autres classes, d'autres niveaux à l'école primaire, hein, donc des professeurs des écoles. Ce n'est pas le cas dans le reste du monde, Elisabeth Godon.
Mais ce n'est pas le cas en maternelle. En maternelle, l'école s'adapte aux jeunes enfants.
Mais il y a un programme quand même.
Il y a un programme. Il y a un programme qui est que...
Qui dépend du ministère de l'Éducation nationale.
Bien sûr, mais un programme qui se décline partout, je veux dire. Devenir acteur de son apprentissage, devenir faire se développer sur le plan artistique, développer toutes ses compétences langagières, quelle que soit la langue, du coup. Mmh. Sur le plan artistique, sur le plan physique, c'est un programme qui s'adapte, puisque vous parliez de ça, à toutes les cultures.
Est-ce qu'il y a une façon de voir l'école maternelle à la française? Est-ce que, par exemple, dans les écoles maternelles en France, on met plus l'accent sur certaines choses par rapport à d'autres pays, notamment sur le parler, je ne sais pas?
Alors justement, dans les pays dans lesquels j'ai eu la chance d'aller, c'est-à-dire tout le temps, la plupart du temps, tout était oral. Par exemple, en Guyane, mais aussi en Afrique, les contes sont terriblement présents, importants, tout le temps, c'est génial. Donc en fait, alors qu'en France, on va effectivement, axer l'apprentissage sur les comptines, c'est naturel pour les petits-enfants en Afrique, par exemple. J'ai toujours vu ça. Et puis aussi en Guyane. Alors qu'en France, on va à l'école avec un groupe d'enfants, par exemple sur les bords du fleuve en Guyane, un enfant était pressenti pour recevoir l'enseignement, pour pouvoir le donner aux autres après. Donc il était choisi, il était élu. Vous voyez bien que c'est la grande différence. D'un côté, il y a une élection, et de l'autre côté, il y a tout le monde.
Sur l'aspect de l'oralité, est-ce que c'est une spécificité, la façon de concevoir l'école maternelle française ou pas?
Non, la façon de concevoir l'école maternelle française, c'est effectivement d'avoir un programme. Et la question, c'est de savoir si en soi, avoir un programme, c'est une garantie que l'école maternelle forme bien aux compétences finalement auxquelles qu'on voudrait développer chez les enfants. Et je pense que ça, c'est un vrai enjeu. Il y a plein d'autres systèmes dans lesquels il n'y a pas de programme. Si vous allez dans les systèmes du nord de l'Europe, il y a beaucoup moins d'emphase sur le programme. On fait une entrée beaucoup plus sur les compétences. Donc l'enjeu, c'est la formation des enseignants. C'est-à-dire qu'il faudrait sortir un peu la focale du programme et un peu plus sur la formation des enseignants pour justement prendre en compte tout ce qu'on a dit là. La bienveillance vis-à-vis de l'enfant, c'est quelque chose d'un peu nouveau, ça. C'est-à-dire de dire qu'il faut être bienveillant par rapport aux erreurs qu'il peut faire, parce que l'erreur, c'est le fondement même de l'apprentissage. Au fondement de l'apprentissage, il y a l'erreur. Si on n'est pas capable d'accueillir cette erreur-là comme une marge de progression, si on ne comprend pas qu'il faut faire un retour sur l'apprentissage de l'élève et pas sur sa performance, tout ça, c'est fondamental pour les apprentissages. Et puis la dernière chose, c'est toutes les compétences transverses. Et je crois que ça, vraiment...
Vous pouvez nous donner des exemples quand vous parlez de compétences, parce que je ne suis pas sûre qu'on voit de quoi
compétences transverses, ça veut dire, typiquement, on sait que la capacité à réguler ses comportements, ça veut dire attendre son tour de parole, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire, effectivement, avoir la capacité à un moment de commencer une activité, de la finir, de ranger ce qu'on a sorti. C'est finalement un peu ce que faisait
Montessori. C'est aussi important que d'entrer dans les mathématiques ou dans le langage.
Beaucoup plus important. Beaucoup, beaucoup plus.
De rester concentré sur une même activité, même si c'est une activité de dessin, de coloriage, c'est plus important que de retenir les premières lettres de l'alphabet. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui.
Les données sont totalement, de ce point de vue-là, univoques. C'est le meilleur prédicteur de la réussite scolaire, de la réussite professionnelle, de la santé physique, de la santé mentale et du bien-être devenu adulte. C'est ces compétences, ces aptitudes de l'enfant qu'il faut développer aujourd'hui.
Bon, ça c'est important parce qu'il y a des parents qui sont inquiets au bout d'un an d'école maternelle si leur enfant ne reconnaît pas les lettres de l'alphabet.
Qu'il ne soit absolument pas inquiet. L'enjeu de la maternelle, c'est d'apprendre de façon, par le jeu par exemple. Le jeu, c'est un formidable outil d'apprentissage. C'est une façon de structurer sa pensée, d'apprendre des règles, de changer de règles à certains moments.
Et de maintenir son attention.
Et de maintenir son attention sur une activité.
Vous nous appelez les voisins et les voisines si vous voulez bien comprendre ce que fait votre enfant à l'école maternelle, ce qu'il peut faire au 33 7 64 45 51 41. On accueille Dovi qui est à Cotonou, au Bénin. Bonjour Dovi.
Oui, bonjour Emmanuel Bastille.
Dovi, vous êtes directrice de crèche à Cotonou et vous ouvrez une école maternelle privée en une toute petite section tout d'abord, c'est bien ça? Du coup, vous êtes intéressée
voilà.
par le sujet.
Tout à fait, on ouvre une petite section à la prochaine rentrée, ouais. 2021-2022, et effectif réduit 12 enfants maximum, ouais.
ah, oui.
et 3 ans révolus,
d'accord.
ou 34 mois, pas moins.
Pas moins, d'accord.
Pas moins.
Et pourquoi? Parce qu'il y a ce fameux critère, les enfants doivent être propres quand ils arrivent à l'école, c'est ça, être capable d'aller aux toilettes
non,
tout seul ou pas,
pas
forcément?
Non, on ne met pas ça en avance, non.
Parce que ça, vous savez que c'est la terreur des parents en France.
C'est la terreur des parents en France, oui, tout à fait, j'en suis consciente. Mais ici, ce n'est pas le cas. Mais nous, on privilégie plutôt que l'enfant ait cet âge parce que ici, en tout cas les parents avec qui je suis en contact, ont envie que l'enfant aille très tôt à l'école, que l'enfant sache lire, écrire très très tôt. Donc pour eux, c'est synonyme d'intelligence. Donc c'est plutôt justement expliquer aux parents, non, l'enfant n'a pas besoin de savoir lire très tôt, tout ça, non. Il faut plutôt beaucoup d'activités d'éveil, essayer d'aider l'enfant à structurer sa pensée, s'exprimer, écouter les consignes simples et les exécuter dans la limite et tout. Donc c'est vraiment une éducation qu'on essaie de donner aux parents en leur disant c'est pas une course effrénée à la connaissance. Ouais. Parce qu'il y a certains parents qui pensent que l'enfant joue trop et ouais. qu'il faut qu'il travaille. Donc à cet âge, il faut leur expliquer que non, c'est l'âge, justement, c'est ce que je leur dis. Le premier travail d'un enfant, c'est de jouer. Et c'est en jouant qu'il apprend.
Dovi, vous avez dit au Standard à Delphine que les parents vous réclament des carnets de notes à la maternelle.
Même pas à la maternelle, c'est-à-dire à la crèche. Moi, on m'a
non.
déjà eu. Oui. Ah ben oui, mais vous n'avez pas. Je te dis, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on note? On vous dit qu'on fait de l'éveil. C'est une pédagogie qu'il faut apporter et pas de pédagogie aussi pour les parents, parce qu'il faut qu'ils comprennent. Que non, c'est pas parce que l'enfant est un perroquet et qu'il récite A, B, C jusqu'à Z et qu'il est intelligent. C'est pas ça. C'est vraiment pouvoir mettre l'enfant dans un contexte qu'il puisse être autonome, actif dans ce qu'il fait. Et ça, c'est notre pédagogie que nous apportons à
Eh bien, vous apportez de l'eau au moulin de nos invités. Merci Dovi, en tout cas, de nous avoir appelés de Cotonou. Elisabeth Godon.
Alors oui, je souhaite rebondir devant cette notion d'évaluation. En fait, une évaluation peut être positive si le groupe entier d'enfants qui participent à un même projet est évalué. Par exemple, la découverte de quelque chose, par exemple sa flotte, on a fait ça, ça flotte sur
flotte,
l'eau.
C'est-à-dire, on a une bassine d'eau et on met un objet
et
qui flotte.
Est-ce que tout ne flotte pas? Alors si tout ne flotte pas, comment faire flotter? Comment faire couler? Modélisation, on va... Alors j'ai fait ça dans une école personnellement de la Goutte d'Or. J'avais rapporté du sable de Bretagne.
À Paris, non?
Et j'avais expliqué aux enfants qui ne voulaient pas le croire qu'on pouvait faire un château avec du sable. Et Et donc, on a fait tout le château. On a donc fait cette éducation scientifique, cette opération pendant 2 semaines, puisqu'il y a eu l'eau et il y a eu le sable, et il y a eu le château, et il y a eu le fait que le château soit tombé, donc les hypothèses, tout ce qui peut... Ça, ça peut être noté, puisque c'est toute la classe.
Alors, une question d'innocent qui est à Bujumbura, au Burundi, qui n'en démord pas, du coup. Comment aider un enfant de moins de 5-6 ans à se préparer au CP dans un pays qui ne propose pas d'enseignement préscolaire? On voit bien toute l'inquiétude des parents dont les enfants ne peuvent pas accéder à cet enseignement préscolaire.
Je pense que c'est effectivement une question extrêmement légitime. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un, c'est ce qu'on redit depuis tout à l'heure, le jeu. Le jeu est un formidable outil de construction des briques de base qui nous permettent ensuite d'apprendre, par exemple, au CP, à lire, écrire, compter, raisonner, respecter autrui. Donc, première chose...
Alors, le jeu, ça veut dire beaucoup de choses, le jeu.
Ça peut être le jeu de société, mais ça peut être le jeu de rôle. Faire un jeu de rôle, typiquement, c'est prendre une perspective différente de la mienne. C'est-à-dire que je deviens un autre personnage. À partir du moment où je fais cet exercice mental, je prends déjà une perspective hétérocentrée. Prendre une perspective hétérocentrée, on peut le faire beaucoup plus jeune que ne le pensait Piaget. Piaget pensait qu'il fallait attendre 8-9 ans pour arriver...
Alors, soyons simples dans les explications. Un enfant qui joue aux petites voitures naturellement, tout seul, dans son coin, avec une petite voiture qu'il fait rouler, une petite voiture qu'il a peut-être même récupérée, fabriquée, peu importe. Est-ce que ça fait partie des jeux éducatifs?
Il construit son imaginaire quand il joue avec une petite voiture. En règle générale, il se raconte une histoire. Si vous êtes un peu attentif à ce qu'il fait, il est en train de se raconter une histoire. Et ensuite, le parent, quand il a le temps, évidemment, c'est un des enjeux, il peut aussi s'insérer dans l'activité. Il va pouvoir commencer à dire, tiens, tu sais, on pourrait prendre les voitures et les catégoriser. On pourrait mettre les voitures avec les voitures, les camions avec les camions. Ah tiens, si on mettait les voitures vertes ensemble, et si on mettait tous les objets verts ensemble, ben ça, c'est déjà la capacité à comprendre les grandes catégories et qu'il y a des catégories qui en emboîtent d'autres. Ça, c'est les taxonomies, elles sont construites comme ça. Donc, c'est un premier pas pour rentrer...
Il faut quand même être un professionnel de l'éducation pour avoir l'idée de faire ça, non?
Alors, ce qu'il faut, c'est effectivement former. On a parlé des enseignants, mais évidemment, la coéducation, on le sait très bien, c'est le vrai levier. Il va falloir qu'on arrive à un accompagnement à la parentalité, notamment pour les parents dont les enfants ne peuvent pas aller à l'école primaire. Donc, l'école primaire obligatoire en France, bon, on a les moyens de le faire d'une certaine manière, mais dans certains pays où on ne peut pas forcément avoir de maternelle obligatoire, tout l'enjeu, c'est comment on arrive à informer les parents sur l'ensemble de ces processus de construction du savoir chez l'enfant pour qu'ils puissent le mettre en jeu dans la vie quotidienne. On peut pédagogiser la vie quotidienne dans plein... Quand on fait une recette de cuisine, on peut faire de la proportionnalité et des maths aux enfants.
Pédagogiser la vie quotidienne. On va essayer d'y voir plus clair. Vous restez avec nous tous les deux, hein, Grégoire Borst, Elisabeth Godon. On va parler donc du préscolaire au Maroc, notamment dans les zones rurales où l'école pour les filles ne va pas de soi. Quel rôle peut jouer le préscolaire pour favoriser l'éducation des filles? Et puis bien sûr, les parents, vous avez la parole pour toutes vos questions. Juste après, tiens, allez, les souvenirs d'enfance des rappeurs toulousains Big Flo et Oli.
Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux, que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai, et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas.
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
7 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI. Comme chaque semaine, nous parlons d'éducation. Que peut faire votre enfant et apprendre surtout à l'école maternelle ou le préscolaire ou le jardin d'enfants? On le disait en première partie d'émission avec nos invités, Elisabeth Godon, psychologue, Grégoire Borst, spécialiste de neurosciences cognitives de l'éducation. On le disait, l'école maternelle à la française a un programme et dépend de l'éducation nationale. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays où d'une école à l'autre, d'un jardin d'enfants à un autre, eh bien, les règles changent néanmoins. Les lois universelles du développement de l'enfant nous montrent bien que l'enfant apprend énormément de choses, en gros entre 3 et 6 ans, et d'ailleurs même avant. Vous pouvez nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41 pour poser toutes vos questions à nos invités. Et on accueille Wafa Skali, qui est présidente de l'association Relais Instruction Éducation, concernant le Maroc. Bonjour Wafa Skali.
Bonjour.
En quelques mots, dites-nous déjà quelle est aujourd'hui la place du préscolaire au Maroc, un pays qui a beaucoup avancé sur le chemin de l'éducation pour tous. Est-ce que l'école maternelle est elle aussi de plus en plus répandue?
Oui, il y a des avancées très rapides dans ce domaine. Il y a eu une recommandation royale en 2019 pour la généralisation de l'enseignement préscolaire. Parce que, comme dans beaucoup de pays, il y a eu une massification et des grands progrès dans la scolarisation en primaire. Aujourd'hui, presque l'ensemble des enfants sont scolarisés en primaire, mais avec un problème majeur qui est un problème de qualité, en particulier dans les régions les plus défavorisées. Oui. Et si je pars d'une région que je connais bien, une région sur laquelle nous avons beaucoup travaillé en multipartenariat associatif, institutionnel, il y a 10 ans, quand on a commencé ce projet de préscolaire dans la vallée d'Imlil, donc c'est une vallée enclavée dans le Haut-Atlas où l'habitat est très dispersé et où les conditions de vie sont très difficiles, eh bien, il y a une dizaine d'années, sur 10 enfants qui entraient à l'école primaire, il n'y en avait que 4 qui finissaient, et parfois sans savoir lire et écrire. Donc, et de l'avis unanime, il y a eu une co-construction de ce projet autour du préscolaire. Le préscolaire est apparu comme une priorité, ça a été souligné, renforcer les capacités de l'enfant, développer des compétences qu'on appelle dans certains jargons les soft skills, c'est-à-dire oui. les compétences de communication, de vivre ensemble, la confiance en soi, rendre les enfants acteurs de leur apprentissage. J'ai beaucoup aimé l'aspect, ce sont des petits scientifiques dans les écoles préscolaires. Eh bien, on a pu montrer avec les 10 premières classes de préscolaire qu'on a ouvert dans une démarche de dynamisation sociale, de co-construction de projets.
Oui. Ça veut dire que le préscolaire, c'est l'instrument pour éviter que les enfants n'abandonnent ensuite l'école primaire avant la fin. Quelle est la situation des filles dans ce programme? Parce qu'on dit qu'elles continuent d'être encore très pénalisées dans leur parcours scolaire parce qu'elles sont des filles.
Alors, déjà, sur l'élément sur les 10 premières classes qu'on a ouvertes, tous les enfants qui sont passés par le préscolaire ont fini le primaire et l'ont fini en sachant lire et écrire. Donc, il y a eu une avancée majeure qui montre bien tout l'intérêt de ce préscolaire. Alors, pour les filles, nous sommes très sensibilisés à l'association DREAM sur l'accès des jeunes filles à une éducation et des petites filles à une éducation de qualité. Déjà dans le préscolaire, la petite fille et le petit garçon sont ensemble, travaillent ensemble. Dans nos classes de préscolaire, il y a 50% de filles. Ah oui. Et d'emblée, on place les enfants sur un pied d'égalité et on leur donne accès à une éducation de qualité. Il y a un autre élément très important, c'est que ces classes de préscolaire dans des zones très très enclavées sont des éléments très importants de dynamisation sociale parce que pour les parents, l'école primaire qui est parfois loin est une abstraction et donc ils sont assez peu sensibles
et qui peut être
à l'importance d'accompagner l'enfant.
Et qui peut être perçu comme un luxe inutile en plus.
un luxe, un milieu un peu hostile, oui. beaucoup de choses.
Quand vous avez des petites filles de 6 ans qui savent, qui connaissent les lettres, qui savent tenir un stylo à la fin de la maternelle, qu'est-ce qu'on raconte dans les familles ? Est-ce que le regard change sur les filles à l'école ?
Bien sûr, parce que on est fiers. Tous les parents sont fiers de la perspective d'éduquer leurs enfants pour qu'ils aillent beaucoup plus loin qu'ils n'ont été eux. Donc, c'est très clair que ce sont des avancées. Après, à la fin du primaire, il y a un autre volet qui est très important pour les petites filles. C'est que le collège est souvent très loin du lieu où habite l'enfant. Vous avez probablement vu le film sur le chemin de l'école.
Oui, on a même reçu le réalisateur, tout à fait, où il y a des enfants qui peuvent marcher 2 heures pour aller au collège.
Exactement. Et la petite Zahira était dans un foyer créé par notre association à proximité du collège pour pouvoir poursuivre sa scolarité. Donc,
ça, c'est encore un autre enjeu. Merci beaucoup, Wafas Kali. Je suis désolée, on a des auditeurs qui souhaitent aussi poser des questions. Merci d'avoir été en ligne avec nous, présidente de l'association Relais Instruction Éducation au Maroc. Et bien sûr, vous avez la parole au 33 7 64 45 51 41. On accueille Fatima, qui est maman d'une petite fille de 5 ans à Dakar, je crois. Bonjour Fatima.
Bonjour Emmanuel.
Fatimata ou Fatima ?
Comme vous voulez.
Soyez la bienvenue. En tout cas, on vous écoute.
Merci. Alors oui, moi j'ai une fille de 5 ans. Elle est en grande section. Alors comme elle est toute seule à la maison, il n'y a pas d'enfant de son âge. Quand elle joue, elle a tendance à parler toute seule. Oui. Alors, j'aimerais savoir si c'est une bonne chose.
Elisabeth Godon va vous répondre.
Tous les enfants ont besoin de parler à partir du moment où ils ont des mots pour le faire. Et par conséquent, la majorité des enfants uniques ont un copain de cœur qu'ils s'inventent et avec lequel ils ont des grandes discussions dans tous les pays du monde.
Voilà, vous voulez rassurer. Vous pouvez d'ailleurs même vous amuser avec votre téléphone à enregistrer votre fille. Ça fera des jolis souvenirs pour plus tard parce que le monde imaginaire des enfants est sans limite, Fatima.
Ah, d'accord, parce que quand elle joue, moi je l'écoute. Parfois, elle a tendance à jouer le rôle d'une maîtresse, de sa maîtresse, par exemple. Il vient d'une grande personne à la maison, quoi.
Ouais. Elle reproduit ce qu'elle a vu dans la salle de classe, d'Ivoire Borst.
Ce qu'elle a vu et ce qu'elle entend. Voilà, c'est ça.
C'est tout à fait logique parce que.
Elle le fait sans arrêt. Donc c'est ça.
Mais ça veut dire qu'elle prend du plaisir, non ?
Ça veut dire surtout qu'on apprend en imitant. Et c'est même un fondement même de l'apprentissage, c'est l'apprentissage par observation et par imitation. Donc elle reproduit ce qu'elle voit dans la salle de classe, elle devient la maîtresse quand elle est à la maison avec son copain imaginaire ou avec l'ensemble de ses poupées. Et ça, c'est extrêmement important. Ça permet aussi de progressivement se construire, de comprendre qu'on peut imiter tout de suite. Et ensuite, comme le montrait Piaget, on imite avec un temps de retard. Et ça entraîne aussi ces capacités dont on parlait tout à l'heure, de régulation. J'attends mon tour, je ne vais pas imiter tout de suite, j'imite un peu après. J'apprends aussi à qui je dois observer dans ma classe, parce qu'il y en a qui font bien l'activité, puis d'autres un peu moins bien. Tout ça, c'est absolument fondamental. Encore une fois, c'est les briques de base dont on aura besoin ensuite pour apprendre et acquérir les outils culturels à l'école.
Et alors, vous avez dit quelque chose d'important, Grégoire Borst, c'est qu'effectivement, votre fille Fatima, j'imagine, elle n'imite pas la maîtresse quand elle est dans la salle de classe. Elle le fait bien a posteriori, une fois qu'elle est rentrée chez elle. Donc là aussi, elle a bien compris quelles étaient les règles implicites de l'école maternelle.
Voilà, c'est ça. Elle le fait à la maison toute seule. Et puis, sans arrêt, quoi. Moi, c'est qu'elle elle se fatigue pas. Elle le fait sans arrêt. Elle fait des voix et vient. Alors, c'est ça qui m'inquiète. Je me dis que est-ce que ça, ça va pas lui créer des problèmes plus tard? Je sais pas.
elle fait effectivement ce jeu de prendre, se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est extrêmement... Il faut comprendre que c'est fondamental pour la construction. On a parlé des soft skills, des compétences socio-émotionnelles. L'empathie, le fondement même de notre capacité à entrer, à comprendre pourquoi l'autre peut avoir des difficultés, à comprendre la différence, à être tolérant, c'est précisément apprendre à se mettre à la place de l'autre. Et apprendre à se mettre à la place de l'autre, ça commence en étant une fois la maîtresse, une fois l'élève, une fois et ainsi de suite.
Voilà. Bon, bah, tout va bien alors finalement, Elisabeth Godon, hein, pour la fille de Fatima.
Alors moi, justement, je pense que pour la fille de Fatima, c'est fantastique parce qu'elle a cette chance. Mais je voulais parler des autres filles, celles qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Je voudrais dire que mon livre était est tout centré sur cette question-là du feedback en permanence de ce qui se passe à la maison et de ce qui se passe à l'école et de l'estime de soi. Donc, si une petite fille ne va pas à l'école, mais qu'elle est à la maison, elle a une estime de soi qui va bien dans le contexte où elle se place, le jour où elle pourra aller à l'école, alors tout ce qu'elle a acquis déjà sera une force, en fait. Et dès qu'elle pourra aller à l'école, bien sûr, il vaut mieux qu'elle y aille le plus tôt possible. Mais si ce n'est pas le cas, je rassure les parents, je veux dire. Il faut qu'ils sachent que ce sont les parents qui assurent la prévention des troubles. Il n'y aura pas de troubles si l'enfant, chez lui, si l'enfant, avec ses parents, est dans un échange constructif qui lui donne une belle estime de lui. Et alors, à ce moment-là, dès qu'elle aura l'eau, elle va faire feu de tout bois, évidemment.
Merci à vous, Fatima, de nous avoir appelés. Vous parliez du repérage des troubles. Ça fait des années en France qu'on a une polémique qui ne s'éteint jamais, qui revient tout le temps sur l'école maternelle qui serait un lieu de repérage des futurs délinquants, de compétition scolaire. Pourquoi l'école maternelle est régulièrement l'objet de polémiques alors qu'elle a en même temps longtemps été un modèle pour le reste du monde? Qu'est-ce qui se passe en France, quelques mots?
Oui, en quelques mots, et je vais pouvoir mettre les choses au clair, puisque il y a une nouvelle polémique qui a encore une fois émergé, qui fait suite à une volonté de l'ADEP, du ministère de l'Éducation nationale, ce qui permet d'évaluer les performances de notre système, mais aussi les capacités et les compétences des enfants, qui lance une nouvelle étude. Alors, vous avez de la chance, c'est moi qui suis derrière l'horrible questionnaire qu'ils sont en train de proposer, qui est un questionnaire qui permet justement de mesurer toutes les compétences dont on a parlé jusqu'à maintenant. Donc, si ça ne vous a pas choqué que j'ai parlé de régulation des comportements, si ça ne vous a pas choqué que nous ayons parlé de la capacité d'autonomiser, si ça ne vous a pas choqué que j'ai parlé de la capacité à résister à certains automatismes qui peuvent se mettre en place et qui ne sont pas forcément pertinents dans une situation donnée, alors n'ayez aucune crainte. On n'essaye pas de trouver et d'identifier un enfant et un trouble dans un enfant. Le questionnaire qui est lancé par l'ADEP, c'est un questionnaire qui a comme seule valeur la possibilité de voir qu'est-ce que développe l'école maternelle française en termes de compétences chez ses élèves. Pas du tout d'aller dire cet élève-là a un trouble du comportement ou celui-là n'en a pas. Ça n'a pas de sens de faire ça. Ce qu'on regarde au contraire, c'est d'essayer de comprendre la variabilité entre les enfants et de savoir si l'école maternelle joue son rôle, c'est-à-dire de réduire les inégalités sociales dans l'ensemble de ces compétences qui sont fondamentales pour l'entrée dans les apprentissages. Les pédagogues le disent depuis tout le temps, les enfants ne sont pas égaux dans leur entrée dans les apprentissages. Et le gros problème qu'on a, c'est qu'on est assimilé à une étude qui avait été lancée en 2006 par l'INSERM, qui avait comme but justement de faire cette détection précoce des possibles délinquants. Mais ce n'est pas du tout la même étude, ça n'a rien à voir.
Les enseignants à l'école maternelle le disent quand même, accusent le Conseil supérieur des programmes d'inciter tout le temps les enseignants maternels à mieux préparer les enfants aux tests de compétences en cours préparatoire. Il y a comme un peu ce soupçon du bachotage qui plane sur l'école maternelle à la française, Elisabeth Godon.
Vous pensez bien que je suis en train de bondir là, évidemment, parce que en fait, il vaut mieux toujours essayer de déterminer les facteurs de succès, évidemment, plutôt que des facteurs qui permettent de réduire les risques, en fait. Donc, il faut, je pense, arrêter d'imaginer qu'un enfant, c'est un objet. Un enfant, c'est pas un objet. Il y a bêtement, dans l'entrée, dans l'arrivée, en petite section, l'idée que c'est un rite, c'est pas un rite de passage. Il n'y a pas de rite de passage, même si c'est considéré comme un rite de passage, parce qu'il va y avoir 3 années où on va dire que c'est le rite d'initiation pour entrer au CP. Et là, on va dire qu'il y a encore un rite qui sera. Et au CP, tu vas apprendre à lire, écrire, compter. C'est pas vrai. C'est vrai pour un tiers des enfants. Après, pour un autre tiers des... Sans problème. C'est vrai pour un autre tiers des enfants qui aura besoin de l'enseignant pour vraiment entrer dans les apprentissages. Et puis, il y aura un tiers des enfants pour lesquels n'aura pas été fait ce que vous dites, monsieur Gorst, évidemment, et qu'on va étudier maintenant. Donc, de mon point de vue, en France, ces 3 étapes, en fait, ne devraient pas être comme ça. C'est ça que je veux dire. L'enfant évolue, son développement est un continuum. Il faut changer. Les enfants ont changé. Il faut qu'on s'adapte aux enfants tels qu'ils sont devenus. Les élèves ont changé.
Et je crois qu'on n'est pas du tout sur deux positions différentes. Moi, je suis entièrement d'accord avec l'idée que la maternelle ne doit pas être l'antichambre du CP. Il faut se poser la question de et je le dis depuis tout à l'heure, de quelles sont les compétences dont va avoir besoin l'enfant, mais qui ne sont pas les compétences disciplinaires en français, en maths ou en sciences, mais de façon beaucoup plus large, quelles sont les compétences dont il aura besoin, par exemple, la capacité de persévérer dans un apprentissage, par exemple, cette capacité justement à apprendre les règles sociales qui structurent l'école. Tout ça, on peut le faire indépendamment d'apprendre les lettres et autres. Et je crois qu'il faut complètement décorréler ça. Justement, ce que fait l'étude de l'ADEP, il ne voulait faire que le langage et les maths. Et on est venu avec le laboratoire en disant, attention, nous, au Lapsidé, laboratoire du CNRS, on sait bien qu'il y a plein d'autres compétences qui sont beaucoup plus prédictives de la réussite scolaire, qui n'ont rien à voir avec les maths et le français. Est-ce qu'on pourrait simplement, effectivement, montrer quel est le décours de ces compétences, comment la maternelle peut jouer son rôle, justement, de développer ces compétences-là, pour ensuite revenir vers le ministère et leur dire, attention, vous êtes en train de vous tromper, là, sur les programmes.
Oui. Vous le dites bien dans votre livre, Elisabeth Godon, finalement, gagner en confiance en soi, savoir observer, pour un enfant très important, l'école maternelle, être attentif, savoir gérer ses émotions, utiliser sa mémoire, savoir raisonner, comprendre et apprendre. Voilà, c'est tout le mode d'emploi qui conditionne ensuite la scolarité. Une dernière question, oui, on a le temps, mais très rapidement, une dernière question de Josué, qui est à Kinshasa, qui est prof de maths dans le secondaire et qui se demande si, est-ce que les enfants qui ont des difficultés dans le primaire et le secondaire, c'est d'abord parce qu'ils ne sont pas allés à la maternelle ou pas ? On peut faire une réponse à cette question ? Elisabeth Godon.
C'est pas tant qu'il ne soit pas allé à la maternelle, c'est qu'il n'est pas nécessairement développé certaines compétences qui seront importantes pour l'entrée dans les apprentissages. Et on le dit depuis tout à l'heure, c'est ça qui est assez fondamental. Et effectivement, quand la maternelle joue bien son rôle, elle développe ce type de compétences. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas certaines familles dans lesquelles on va développer ces compétences et dans lesquelles les parents vont jouer ce rôle-là.
Oui, les parents ou d'autres adultes. Un enfant qui serait gardé à la maison jusqu'à l'école primaire, mais qui serait avec un adulte qui pourrait l'aider à jouer et à développer tout ce que vous savez, vous avez bien expliqué, hein, le savoir observer, gérer ses émotions, utiliser sa mémoire, etc. Mais encore faut-il que cet enfant-là ne soit pas simplement garder au sens garderie sans avoir d'interaction avec des adultes. C'est ce que je comprends.
Ça, c'est peut-être le vrai enjeu. C'est de passer d'une conception de la petite enfance dans laquelle on se dit c'est la garderie, il faut leur donner un peu de soutien émotionnel et ça suffit. Non, encore une fois, un enfant, c'est une machine à apprendre, extrêmement puissante, et il faut potentialiser ça, parce qu'on voit bien que quand ils sont en maternelle, oui, et quand ils sont hors de la maternelle, mais à 3-6 ans, ils adorent apprendre.
En même temps, attention, n'allons pas trop loin, vous nous l'avez dit tout à l'heure, pas de notes, évidemment, à l'école.
J'ai pas dit apprendre à lire, écrire et à compter, oui, j'ai dit apprendre. Apprendre, c'est beaucoup plus large.
Merci à tous les deux. Merci Elisabeth Godon, vous êtes psychologue clinicienne, vous avez publié Que sont mes élèves devenus aux éditions Allopex, et merci à vous Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université de Paris. Merci également à Wafa Scali qui était en ligne avec nous, présidente de l'association Relais Instruction et Éducation, et qui nous a parlé de cette très belle expérience dans la vallée d'Imlil, dans l'Atlas au Maroc, pour la réussite scolaire des filles. L'éducation, l'école maternelle est très importante. Dans quelques instants, ce sera la chronique du psychologue Ibrahim Aïdara à Bamako, parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Enfants d'ici et d'ailleurs, des conseils aux parents sur la famille. Et aujourd'hui, nous accueillons le psychologue Ibrahim Aïdara. Bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
On est ravis de vous accueillir pour une série de chroniques chez 7 milliards de voisins. Vous êtes psychologue à Bamako.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, cette première chronique avec vous porte sur la parentalité. Qu'est-ce qui a changé de nos jours au Mali et on pourrait dire dans la sous-région, hein, au niveau de la parentalité ?
Alors, il faut savoir que beaucoup de choses ont changé au niveau de la parentalité. D'abord, les parents ne sont plus les mêmes. Et ce n'est plus comme il y a quelques décennies. Les pères et les mères ont changé, mais surtout, c'est le côté professionnel. Les mères sont de plus en plus des femmes intellectuelles qui travaillent. Donc, il y a eu un grand changement à ce niveau. Et donc, ça explique la fonction parentale qui s'est métamorphosée parce que les gens sont moins présents à la maison, sont moins présents avec leurs enfants.
Mais qu'est-ce que les jeunes reprochent le plus souvent à leurs parents, dans le fond ?
Premier reproche...
Vous les écoutez, vous ?
Oui, je les écoute, je les entends, je les comprends ou j'essaye de les comprendre. Ils reprochent que les parents sont de moins en moins accessibles, que les parents sont moins en moins disponibles pour eux. Et donc, du coup, ça les perturbe, ça les bouleverse. Et il y a, comme toujours, eu des explications. On a toujours dit que les pères ont été absents. Maintenant, la nouvelle donne, c'est les mères qui sont absentes parce qu'elles sont de plus en plus formées. Elles ont un métier qui leur bouffe beaucoup de temps. Mmh. Et donc, du coup, plus les obligations sociales. Donc, du coup, père et mère sont beaucoup absents physiquement et aussi sur le plan affectif, donc le plan relationnel avec leurs enfants.
C'est ce que vous disent les jeunes, les enfants, les adolescents.
Oui, oui.
Il existe au Mali tout de même une nouvelle génération de parents qui sont conscients de la présence qu'ils doivent à leurs enfants ?
Oui, ça existe. C'est surtout les pères qui sont beaucoup plus conscients de cela. Et c'est cette nouvelle génération de pères qui sont beaucoup plus attentionnés, à la différence de leurs propres parents qui étaient moins attentionnés. Et donc, ces nouveaux pères qui sont beaucoup plus présents sur le plan physique et affectif, ils se disent qu'il ne faut pas reproduire tout ce qu'ils ont malheureusement vécu quand ils étaient enfants, parce que c'était autre chose. Et ces pères ont compris qu'ils ont, eux, personnellement, beaucoup à gagner dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle relation qu'ils vont tisser ou qu'ils tissent avec leurs enfants. Donc, ça explique leur rapprochement avec leurs enfants.
Quel conseil vous donneriez aux parents qui nous écoutent pour que cette nouvelle parentalité avec des parents très occupés soit quand même une parentalité de complicité ?
Oui, justement, cette parentalité de complicité, comme vous l'avez dit, Emmanuel, elle est essentielle, elle est très importante. Donc les parents doivent, dans un premier temps, essayer d'instaurer ou d'apprendre à instaurer une certaine complicité entre eux et leurs enfants. Comment le faire ? En partageant des moments de loisirs, en mangeant ensemble, en partageant un maximum de temps libre. Et ça, c'est la première chose que les parents doivent apprendre ou réapprendre si jamais ils ont perdu cette habitude. Deuxième chose, en tant que parents, ils doivent s'adapter à ce monde qui bouge, où tout va très vite. Les enfants sont beaucoup plus exigeants et ils doivent ne plus essayer d'imposer à tout prix leur choix pour tout ce qui concerne le projet de vie de leurs enfants. C'est-à-dire communiquer avec les enfants et essayer de partager des moments où ils peuvent échanger sur ce qui est important pour leurs enfants et pas pour eux parents. Dernier point, il faut sauvegarder les liens parents-enfants. Parce que être proche de son enfant, ça peut permettre à un enfant de pouvoir s'identifier à un moment donné à son parent modèle. L'enfant va s'ouvrir, si c'est un garçon, à son père, si c'est une fille, à sa mère, ou même vice-versa, ou aux deux parents. C'est très important.
Merci à vous, Ibrahim Aïdara. Vos chroniques sont à réécouter en podcast. Hein, tous vos conseils, les voisins et les voisines, vous pouvez écouter toutes les chroniques, d'ailleurs, en rafale. Hein, le nom du podcast, très simple à retenir, parents, enfants, d'ici... Et d'ailleurs, merci
au
à
plaisir.
Vous.
Au plaisir.
Merci, Ibrahim. 7 milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous plongerons dans les méandres des émissions de télé-réalité. Sexistes, caricaturales, reflètent-elles vraiment la société dans laquelle on vit ? De Love Story en France au succès de la télé-réalité brésilienne ou béninoise, que valent les femmes dans ces programmes ? Des émissions qui sont à la fois critiquées et réclamées, c'est tout le paradoxe. L'humanité est bien compliquée et en tout cas, vos réactions nous intéressent sur WhatsApp au 33 7 64 45 51. 41. Merci à toute l'équipe, Delphine de Dianous, Juliette Brault, Romain Dubrac. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur les plateformes de téléchargement. Et dans quelques secondes, ce sera le journal sur RFI.
Sept milliards de voisins, c'est fini.
Tout à l'heure.